Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons cette semaine Bernard Michon et Virginie Chaillot-Atrouze, tous deux historiens et membres du CRHIA. Bonjour.
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 La semaine dernière, vous avez commencé à nous faire découvrir l'histoire de l'île Bourbon, connue aujourd'hui sous le nom de l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous poursuivons cette histoire et vous allez nous parler du système de langagisme, un phénomène migratoire de grande ampleur qui reste relativement peu étudié comparé à l'abondante historiographie sur la traite des Noirs et de l'esclavage. Virginie Chaillot-Atrouze, pouvez-vous nous définir langagisme et les raisons de sa mise en place ?
Oui, alors langagiste, c'est un système de travail dit libre. Alors, dit libre, nous verrons ensuite pourquoi je suis un peu hésitante sur la notion de liberté. C'est un système de travail qui consiste à introduire dans les colonies des travailleurs étrangers sous contrat d'engagement. Ces travailleurs quittent leur terre natale et s'engagent à venir travailler pour 3, 5 ou 10 ans au service d'un engagiste, donc d'un employeur, moyennant un salaire, ce qui les différencie évidemment des esclaves. À l'issue de leur contrat, ces travailleurs peuvent être rapatriés dans leur pays d'origine. Alors, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les Européens, principalement les Français, les Anglais, les Portugais, les Néerlandais, vont avoir massivement recours à ce système pour les besoins des plantations, mais également pour développer leurs infrastructures dans les colonies. Et ainsi, des Chinois, des Africains, des Indiens, des Malgaches, mais aussi des Japonais, des Tonkinois, vont pénétrer en nombre dans les colonies européennes et principalement dans les îles à sucre.
Bernard Michon, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le système des engagés du XVIIe dont on a précédemment parlé ?
Alors oui, il y a des similitudes, hein. Virginie Chaillot-Atrouze vient de le dire, il y a l'idée du contrat d'engagement. La différence, vous l'avez perçue en particulier lorsqu'elle a pu évoquer la liste des populations concernées, hein. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, ces engagés viennent du continent européen. Juste vous donner un chiffre, on estime que 30 à 40 000 Français se sont engagés au XVIIe et XVIIIe siècle.
Virginie Chaillot-Atrouze, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de sa mise en place ?
Alors, en fait, à l'île de la Réunion, dès l'abolition de la traite, qui est donc décidée par les puissances européennes en 1815, les planteurs sont conscients de la condamnation à terme du système esclavagiste, d'autant que les esclaves sont déjà en nombre insuffisant et que la production sucrière, dans cette première moitié du 19e, est en plein envol. On sait notamment, je le répète, que la culture de la canne est absolument dévoreuse de main-d'œuvre et qu'il faut de plus en plus de bras. Et face à ce besoin pressant, eh bien, les planteurs réunionnais vont envisager de recruter des travailleurs étrangers libres qui pourraient peu à peu prendre le relais des esclaves. Et ainsi, dès 1829, des premières expériences sont tentées avec l'Inde. Alors le choix de l'Inde n'est pas anodin, il s'agit de faire appel à une population nombreuse qui permettrait de recruter parmi les basses castes de la population sans risque de se faire accuser de prolongation de la traite, c'est tout au moins ce que pensaient les autorités bourbonnaises. Et donc le gouverneur de Pondichéry va autoriser le recrutement de travailleurs salariés sous contrat pour la Réunion. Et plus de 3000 Indiens sont introduits entre 1829 et 1830. Seulement, très rapidement, on va voir que les colons ont du mal à faire la différence entre ces engagés indiens de couleur qui arrivent et les esclaves qui sont déjà sur les plantations. Et donc cette expérience n'est pas concluante en raison notamment des nombreux abus qui vont être dénoncés par les philanthropes britanniques qui accusent la France de faire perdurer la traite. Et donc l'immigration indienne sera interdite à Bourbon en 1839. Elle reprendra en 1848 lors de l'abolition de l'esclavage. On estime que les conditions sont réunis pour une immigration libre. Et puis, parallèlement, des engagés chinois vont débarquer dans l'île à partir de 1844, mais là aussi, sans réel succès. Et face à ces échecs du recrutement asiatique, eh bien, les colons réunionnais vont se tourner vers le continent africain, qu'ils connaissent bien pour avoir pratiqué la traite, et ils vont donc faire des premières tentatives de recrutement à la veille de l'abolition de 1848. Il y aura donc une vague d'immigration africaine sous contrat entre 1848 et 1859 qui sera suivie par une nouvelle vague d'immigration indienne massive entre 1860 et 1882, l'un prenant le relais de l'autre. 1860-1882 correspondent pour les Indiens à la mise en application des conventions franco-britanniques qui vont faciliter la venue des Indiens à la Réunion.
Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée de l'ampleur démographique de ces mouvements de population à Virginie Chaillou-Atrousse?
Oui, alors c'est assez compliqué. On sait que les chiffres au 19e sont à prendre avec beaucoup de recul. Pour les engagés africains, on sait qu'entre 1848 et 1859, on a plus de 34 000 engagés qui arrivent à La Réunion. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui partent, puisque beaucoup, on verra tout à l'heure, que c'est un véritable trafic, et beaucoup vont mourir dans le canal du Mozambique notamment. Pour les engagés indiens, on estime sur toute la période de l'engagisme, qui commence relativement tôt au 19e siècle et qui se terminera en 1882, à plus de 120 000 engagés qui arrivent dans l'île. Donc on voit que c'est la population qui sera numériquement la plus importante. Pour les engagés chinois, au début du 19e siècle, ils sont à peu près 500 arrivés. C'est très peu, ça ne fonctionne pas bien. Et quelques milliers arriveront au début du 19e.
Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Virginie Chaillou-Atrousse. Le système de l'engagisme au XIXe siècle concerne-t-il seulement l'océan Indien ?
Non, alors ce système ne concerne pas que l'océan Indien et il ne concerne pas seulement les colonies françaises. Il correspond au contraire à une très importante vague migratoire, plusieurs millions de migrants à travers le monde, qui touche quasiment tous les espaces géographiques dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire les colonies d'Amérique et de l'océan Indien, mais également les territoires nouvellement conquis par les puissances impériales en Afrique, en Asie et dans tout le Pacifique.
Virginie Chaillou-Atrousse, est-ce que ces engagés sont-ils tous libres?
Alors c'est une question bien délicate qui agite les débats chez les historiens, mais également dans la société réunionnaise elle-même. Il est important, je crois, de démarrer en distinguant bien l'immigration indienne, donc l'engagisme indien, de l'engagisme africain, qui présente des caractéristiques très différentes. Les engagés indiens sont recrutés en état de liberté. Certains sont d'ailleurs sujets de Sa Majesté britannique et ils sont d'ailleurs protégés par la couronne britannique. Ils émigrent volontairement vers La Réunion, même si la notion de choix est à relativiser. En règle générale, on sait que les Indiens répugnent à quitter le sol de leurs ancêtres et à s'aventurer sur les eaux noires, sur les Kalapani. C'est surtout l'extrême pauvreté qui va les inciter à partir pour espérer trouver une vie meilleure. Donc cette notion de choix, elle est à relativiser, d'autant plus que les recruteurs, qu'on appelle les maestris, vont user de tous les subterfuges pour les embarquer, en leur promettant notamment l'Eldorado une fois arrivés à La Réunion. Alors si les abus sont nombreux, les Indiens de La Réunion sont, on va dire, libres de partir. Et d'ailleurs, l'historien Jacques Weber souligne bien que les révoltes à bord des navires à destination de La Réunion transportant des Indiens sont rares. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de coercition à l'intérieur. Ce n'est pas du tout le cas pour les engagés africains. L'engagisme africain à La Réunion, qui est d'ailleurs à distinguer, il y a quelques nuances avec la situation des engagés africains aux Antilles. À La Réunion, c'est très clair, c'est une véritable traite déguisée. Les colons de La Réunion sont dans l'impossibilité de se procurer des hommes libres, enclins à émigrer sur les côtes orientales africaines, et ils vont donc acheter des captifs qu'ils vont ensuite libérer pour la forme une fois arrivés dans l'île. Et donc les engagés africains à La Réunion ne sont autres que des captifs rasés dans l'intérieur des terres et vendus aux négociants français. Alors, le gouvernement français semble fermer les yeux sur ce trafic qui se déroule à l'ombre du drapeau français, un trafic qui est en complète contradiction avec les lois de 1815 et de 1848. Pire encore, en 1856, Napoléon III, sous la pression des planteurs, autorise le système du rachat préalable d'esclaves pour les colonies françaises. Alors bien sûr, ce système de rachat est assorti d'une garantie juridique pour libérer le captif une fois qu'il est arrivé dans la colonie, mais c'est quand même un système d'achat d'humains. Et puis ce système est pervers, puisque l'engagé, une fois libéré, est enchaîné à une dette qui est le prix de son rachat qu'il devra rembourser à son engagiste.
Et comment les engagés sont-ils perçus par les populations présentes à l'île de la Réunion ?
Alors là aussi, il existe évidemment des différences de traitement et de perception entre les engagés indiens et les engagés africains. Les engagés africains, appelés aussi CAFR ou CAF, sont perçus par les colons comme des esclaves. Et on comprend d'ailleurs aisément pourquoi. À l'inverse, l'Indien va bénéficier d'un tout autre regard. D'abord parce que physiquement, il va plus ressembler au modèle européen préétabli. Et son insertion dans la société créole sera plus facile, du moins à long terme. Le fait également que les Indiens soient de conditions libres va faire qu'on va avoir un regard différent sur eux.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon ce système a pris fin ?
Oui, alors pour les engagés indiens, il prend fin relativement tôt, en 1882, puisque depuis les années 1860, il existe une convention qui est conclue entre la France et les Britanniques. Et l'article 26 prévoyait la dénonciation de l'accord si les autorités britanniques estiment que les conditions qu'elles ont elles-mêmes fixées n'étaient pas respectées. Or, la Réunion se situe à partir des années 60 dans une crise sucrière qui va effectivement favoriser les mauvais traitements, les mauvais paiements des salaires. Et on envoie à la Réunion une commission à partir de 1877 qui va effectivement confirmer ces mauvais traitements. Et en conséquence, le 19 décembre 1882, le transfert de travailleurs indiens engagés à la Réunion cesse définitivement. L'engagisme africain a une toute autre histoire, on l'a dit, il commence à la veille de 1848 et il se termine lui aussi très tôt, en 1859, puisque les accusations des Britanniques qui voient bien que dans l'océan Indien perdure un trafic d'esclaves, ils accusent la France de faire perdurer la traite, vont faire que en 1859, l'immigration africaine à la Réunion est interdite. Mais elle sera à nouveau autorisée à partir de 1887, mais dans de tout autres conditions, où là on a effectivement affaire à des engagés libres qui viendront dans l'île dans les années 1900, mais ils seront très peu nombreux, 3000 environ.
Merci de suivre cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Virginie Chaillou-Atrousse et Bernard Michon. Excellente soirée aux auditeurs qui nous suivent.
Merci.
C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.